Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'économiste Daniel Cohen, le politologue Dominique Reynier, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et le professeur de Relations internationales Bertrand Badie. Au sommaire de ce dimanche 3 février, France, tête de liste aux européennes, chacun cherche son jeune. Et puis au Venezuela, Maduro contre Guaido, chacun compte ses soutiens. Qu'est-ce qu'elle disait de notre époque, cette affiche rajeunie pour les prochaines élections européennes? Que fallait-il lire derrière le choix de Jordan Bardella, 23 ans, au Rassemblement National, celui de Manon Aubry, 29 ans, chez les Insoumis, de François-Xavier Bellamy, 33 ans, pour les Républicains, sans oublier Ingrid Levavasseur, 31 ans, pour une liste gilet jaune. Fini le temps des quinquagénaires, celui des européennes de 2009 et de 2014, où la moyenne d'âge des candidats tournait alors autour de 54 ans. En 2019, les sexagénaires François Asselineau et Jean Lassalle feraient figure de candidats vieillards et nul ne savait dire s'il fallait y lire un signe de renouveau ou de déclin. Les partis envoyaient-ils au front de jeunes pousses pour réinventer l'Europe ou au contraire, par anticipation d'une abstention record et de scores nécessairement décevants? Était-ce le temps des jeunes pour l'Europe ou celui des vieux qui n'y croyaient plus? On entendait aussi parler d'un effet Macron. Selon certains, le président, à peine quadragénaire, avait ringardisé tous ses aînés. Un effet crise des élites, disaient d'autres, les états-majors faisant le pari que la jeunesse les protégerait du dégagisme ambiant. En clair, jouer la carte de la jeunesse pour se refaire une santé. Des états-majors qui rafraîchissaient essentiellement la façade, sans toujours ripolliner l'arrière-boutique. Ainsi, chez les Républicains, les Morano, Dati, Hortefeux figureraient en bonne place sur la liste, juste derrière la jeune garde. Restait à savoir si la jeunesse attirerait la jeunesse pour un scrutin, celui des européennes, qui la fois précédente n'avait mobilisé dans les bureaux de vote que 27% des moins de 35 ans, la majorité des votants ayant plus de 60 ans. Savoir enfin si la jeunesse des candidats allait mécaniquement de pair avec le renouveau des idées, des grilles de lecture et des pratiques. Se dire de toute façon que c'est Henri Michaud qui avait raison lorsqu'il écrivait « La jeunesse, c'est quand on ne sait pas ce qui va arriver ».
Il est agrégé de philosophie, il est prof, il a 33 ans.
Le mouvement d'Emmanuel Macron, par son nom, n'a été qu'une sorte de cristallisation de ce qui obsède la politique française depuis 50 ans, c'est-à-dire le mouvement perpétuel, le changement.
Manon Aubry, vous avez 29 ans, vous étiez jusqu'ici porte-parole de l'ONG Oxfam, avant de dire oui à Jean-Luc Mélenchon.
Alors oui, moi je suis de gauche. Par contre, la gauche ne veut plus dire grand-chose, malheureusement, pour beaucoup de monde. Et c'est ça qu'a compris Jean-Luc Mélenchon, et qui est une intuition qui est solide. Je pense qu'il faut ramener la gauche au peuple, parce que la gauche l'a quittée, notamment sous le quinquennat de François Hollande.
Je suis né le 13 septembre 1995, j'ai grandi en banlieue, en Seine-Saint-Denis, d'origine assez modeste. On veut montrer que ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas une fatalité et que l'Europe peut aussi être quelque chose de bien.
Je suis une citoyenne. Je suis une gilet jaune depuis toujours, depuis mon enfance. J'ai ça dans les tripes, j'ai la souffrance de la vie au quotidien. On ne nous entend pas, on ne nous voit pas en tant que citoyens. Nous sommes juste en train de prendre place au sein de la politique.
Voilà, vous venez d'entendre dans l'ordre François-Xavier Bellamy, Manon Aubry, Jordan Bardella et Ingrid Levavasseur. Avant toute chose, et puisqu'il est l'un de nos visiteurs du dimanche, précisons que François-Xavier Bellamy, dès lors qu'il a été officiellement désigné cette semaine comme tête de liste LR pour les prochaines élections européennes, ne participera plus à l'Esprit Public pendant toute la durée de la campagne, ce dont nous sommes convenus avec lui, et pour respecter ce qui a toujours été et restera la règle dans cette émission. Avant de nous intéresser à chacune de ces jeunes pousses de la politique et de ce qu'elles nous disent de l'état des différentes familles politiques qui composent l'échiquier français. Un commentaire, Dominique Reynier, général, sur le jeunisme annoncé de ces européennes de 2019.
Il y a plusieurs significations. Il ne faut pas oublier la nécessité ressentie par les organisations politiques de renouveler leur personnel, parce qu'il y a eu un dégagisme qui d'ailleurs n'est pas nécessairement terminé et qui, pour partie, sans doute fait fond sur l'idée qu'il faut de nouvelles figures, de nouveaux visages. Évidemment, l'autre explication plus cynique, c'est l'idée que ces élections sont à haut risque, en particulier pour des figures qui voudraient jouer un rôle ensuite et qui cherchent à préserver leur capital politique et qui préféreraient envoyer au casse-pipe des plus jeunes qu'eux, un peu comme dans les tranchées. Il y a aussi sans doute des contraintes qui agissent au sein des différentes organisations, parce que la plupart des organisations politiques RN compris, sont des organisations en crise tout de même, hein, et qui ont besoin de fabriquer des listes qui, autant que faire se peut, vont susciter aussi peu d'hostilité en interne. On peut le voir pour la liste des LR dont on parlait à l'instant, le trio de tête qui a été imaginé par Laurent Wauquiez est sans doute commandé aussi par cette nécessité de ne pas fracturer immédiatement, il y a une orientation qui est choisie, ça c'est très clair, mais de ne pas fracturer immédiatement les Républicains en faisant la place à une vice-présidente qui est proche de la région Île-de-France, qui est proche de Valérie Pécresse, un député sortant qui est proche d'Alain Juppé, donc en essayant de combiner quelques sensibilités. On voit cela, je pense, aussi chez France Insoumise, moins par l'idée de satisfaire les différents courants que d'éviter d'avoir un leader, une tête de liste qui pourrait relancer la critique du leader Maximo, Jean-Luc Mélenchon, un peu en difficulté. Donc je crois que chaque parti aussi a ses propres raisons internes de déboucher sur une sorte de consensus autour d'une prise de risque. Ça veut dire aussi, je termine là la remarque, mais ça veut dire aussi que le soir des élections européennes, dont il faut rappeler qu'elles ne sont qu'à un tour, pour les abstentionnistes qui voudraient se rattraper au second tour, il n'y en aura pas. Le soir des élections européennes, eh bien, il y aura toute une série de conséquences qui vont en découler sur le plan interne, et toutes les listes qui vont échouer assez nettement susciteront une demande de reddition des comptes des responsables des partis.
Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs comme commentaire, Daniel Cohen, le fait qu'on ne cesse de souligner la gravité ou l'importance des enjeux pour l'Europe de demain versus la jeunesse de ces candidats annoncés ?
Non, il n'y a pas forcément de contradiction entre les deux, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Dominique, ça me paraît tout à fait clair. Les partis politiques ont peur d'être et leurs dirigeants ont peur d'être les prochaines victimes de ce dégagisme qu'on voit à l'œuvre, donc ils envoient des gens très jeunes, immaculés si c'est possible, pour les remplacer, avec aussi peut-être le calcul que si ça marche, ça marche, et si ça marche pas, ça sera de la faute de leur inexpérience, donc c'est à plusieurs tours. Mais pour aller au-delà, et pour répondre vraiment à votre question, je crois que ce qui est en train de se manifester en France, c'est tout simplement que le vieil axe droite-gauche a explosé, je crois que tout le monde s'en est rendu compte, et qu'il y en a un nouveau qui tourne autour d'Emmanuel Macron, pour ou contre, qui est d'une autre nature et dont la recherche de ce candidat idéal est aussi l'expression. Et comment le définir, ce nouvel axe, en réalité ? L'axe droite-gauche, au fond, c'était un conflit de valeurs, un peu universaliste du côté de la gauche, plus ancré dans les racines habituelles, on va dire, de la France, pour le cas français. Mais c'était aussi, et peut-être surtout, un conflit, on va dire, d'instruments sur la redistribution ou pas. Au fond, c'était quelque chose d'assez classique, plus d'impôts de services publics à gauche, moins à droite. Et quel que soit le substrat en valeur, ça atterrissait sur ce type d'opposition. Le nouvel axe politique qui se dessine aujourd'hui, c'est plus, je dirais les choses un peu comme ça, un conflit de subjectivité. C'est-à-dire, je souffre et tu jouis, quelque chose de cette nature, qu'on voit dans les enquêtes. C'est-à-dire que, aussi bien les électeurs de Mélenchon, de Le Pen que les Gilets jaunes, ce sont des gens qui se représentent comme en souffrance, parce qu'ils le sont, objectivement, tout simplement. Faible niveau de vie, éloignement des centres urbains, mais ce qui domine, c'est cette représentation d'eux-mêmes comme une population en souffrance. Et l'idée de l'ennemi, de l'adversaire, c'est une population en jouissance de tous les instruments, du pouvoir, etc. Ce qui rend très difficile d'accoucher d'un programme, parce que au sein de cette population en souffrance, comme on l'a souvent constaté, il y a des électeurs de Le Pen, des électeurs de Mélenchon, mais qui ne s'accordent en réalité sur rien, c'est-à-dire ni sur le programme de redistribution, ni sur le rapport aux migrants. Enfin, il n'y a rien d'autre que la reconnaissance commune de cette souffrance partagée. Et donc, dès qu'on est un peu précis, on risque de fractionner son propre camp. Et c'est la raison aussi, je crois, pour laquelle, en choisissant très en amont un personnel politique jeune, c'est cette subjectivité d'un désir à un monde meilleur qu'on met sur la table pour ne pas avoir aussi à entrer dans le détail de ce qu'on veut faire de ce conflit nouveau. Donc sur l'Europe, on va parler en généralité sans doute du système, mais on ne va pas du tout entrer dans la question de savoir mais quelle Europe on veut construire, avec quels instruments. Et ça, ce serait un débat évidemment important, mais qui sans doute n'aura pas lieu.
Vous pensez cela aussi, Hubert Védrine, que ces élections européennes seront, comme le dit Daniel Cohen, un conflit de subjectivité entre ceux qui souffrent et ceux qui pensent jouir, comme il le résumait à l'instant ?
Je pense que Daniel a raison que ça s'applique à toutes les élections en ce moment, dans le contexte où on est. Alors c'est les prochaines dont ça s'applique à ça, mais c'est pas spécialement à la ou le fait qu'il y ait un enjeu européen qui d'ailleurs à mon avis est exagéré. Bon, ce que je pense là-dessus, c'est que en réalité, nous sommes encore dans la traduction, consommation, société de consommation de l'esprit de progrès. On vit tout dans l'idée de progrès depuis le 18e. La traduction dans la société de consommation, c'est que tout ce qui est récent est mieux, en fait. Donc, en principe, le dernier iPhone est meilleur que le précédent. Et donc, ça s'applique encore au milieu politique. Donc, je pense pas qu'ils le vivent comme ça, mais bon. Sur le fond, je pense le vieil adage. C'est-à-dire, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Bon. Normalement, il devrait y avoir une combinaison. Et quand on voit l'âge de Trump, et même Madame May n'est pas tombée de la dernière pluie, ni Madame Merkel, ni d'ailleurs à peu près personne. Donc, c'est un phénomène très particulier, qui est renforcé par tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que c'est pas forcément gratifiant d'aller dans ce genre d'élection, ni dans les élections en général, ni dans la politique en général. Donc c'est peut-être plus facile de trouver des gens très jeunes qui n'ont rien à perdre et qui ne sont pas connus, donc on peut rien leur reprocher, etc. En plus, je crois pas que l'avenir de l'Europe, c'est un mot valise, donc il faut se méfier, mais je crois pas que l'avenir de l'Europe se joue là-dedans. En revanche, je pense que le score dans chaque pays aux élections européennes aura une importance assez importante dans chaque pays. Dans chaque pays, dans le jeu de politique intérieure. On va compter les forces, préparer l'élection suivante, mais ça change pas tellement globalement les sujets sur lesquels les Européens sont d'accord, les sujets sur lesquels ils sont pas d'accord. Le Parlement européen peut être plus ou moins facilitateur, plus ou moins constructif, plus ou moins un empêcheur de tourner en rond, mais c'est pas là où ça se joue. Les élections en Allemagne ou en France sont beaucoup plus importantes, en réalité. Donc il y a une espèce d'exagération. Je dis pas que c'est négligeable, hein. Mais il faut pas non plus penser que tout se joue là-dedans. Et puis j'ai une attitude philosophique un peu souriante sur ce phénomène de jeunisme.
C'est-à-dire, vous ricanez franchement même.
Non, je ricane pas, mais il faut pas lui donner plus. Enfin, on a bien dit tous les trois à quelle raison réelle ça répondait. Alors maintenant, ouais. Ce que j'ai pas traité, c'est est-ce que ça a un impact sur les électeurs? Je sais pas. On a rappelé le faible pourcentage de jeunes qui votent. Globalement, d'ailleurs, si je me trompe pas, il y a eu 60% d'abstention. Globalement, en moyenne, en Europe, hein, aux élections européennes. Alors, ça peut peut-être faire remonter un peu le vote, en tout cas en France. Ah, bon,
ça remonte un moyenne, peu du fait de l'absence des électeurs britanniques qui sont les plus abstentionnistes et par un jeu curieux.
Oui, mécanique.
Les plus abstentionnistes se retirant du jeu, ça fera un peu remonter la participation.
Alors, rentrons dans le détail de cette affiche qui s'annonce pour les élections européennes en France. Commençons par François-Xavier Bellamy, je le disais, désigné mardi tête de liste LR pour les européennes. Son parrain en politique, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, dit de lui, il est l'un des rares à proposer une réponse intellectuelle au macronisme. Bertrand Badie, je ne sais pas si vous avez lu son dernier livre, Demeurer, en ces temps de vidéo idéologique et de recherche de sens, dit le candidat Bellamy, il s'oppose à cette idée du mouvement permanent d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'en effet, ça peut faire partie des débats de ces prochaines élections?
Oui, et en répondant à cette question, je peux peut-être prolonger ce que disait Daniel Cohen il y a un instant. Juste avant, quand même, sur ce jeunisme que je dise aussi, ma façon de penser, je pense qu'en France, on est toujours terrifié par les renouvellements de la classe politique. C'est-à-dire qu'il y a un taux de pérennité chez les élus et chez les professionnels de la politique qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Regardez la carrière politique d'un François Mitterrand, d'un Valéry Giscard d'Estaing, d'un Jacques Chirac, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer, c'est qu'on commence à se réaligner sur les autres, c'est-à-dire considérer qu'une carrière politique, surtout quand elle est jalonnée d'échecs, ce qui n'est jamais entré dans la grammaire politique française, suppose renouvellement. Donc, faut pas non plus trop stationner sur cette question. Sur le problème que vous posez, je crois que c'est intéressant, parce que je rejoins tout à fait ce que disait Daniel, on vit une période assez remarquable de modification brutale des clivages politiques. Je pense qu'elle est plus complexe encore, cette mutation, c'est-à-dire que il y a quand même ce phénomène tout à fait extraordinaire, mais tellement présent qu'on ne le voit même plus, qui est que des êtres humains de la même génération, en tous les cas de la mienne, ont vécu successivement dans deux mondes. Vous vous rendez compte? C'est depuis Adam et Ève, peut-être la première fois que c'est arrivé une chose pareille. C'est-à-dire, je suis pas si vieux que ça, mais pourtant, toute ma jeunesse, j'ai vécu dans un monde interétatique, international, guerre froide, bipolarité, tout ce qui en suit. Maintenant, depuis quoi? 30, 40 ans, je vis dans un monde à syntaxe de mondialisation. C'est-à-dire un monde dans lequel les repères, dans la formation des comportements, dans la formation des choix, dans la formation et l'élaboration des politiques publiques ne sont plus du tout les mêmes. Étonnez-vous que beaucoup de gens soient bouleversés. Étonnez-vous qu'ils aient peur. Parce que quand un changement est brutal, demandez à Monsieur de la Palice, il vous expliquera qu'on a peur. Et cette peur explique pour beaucoup ces vagues populistes que nous vivons actuellement. Et surtout, cette mutation extraordinairement brutale explique à quel point, non seulement le système partisan, mais la distribution des valeurs, des choix, s'en trouve très très profondément modifiée. Aujourd'hui, avant effectivement de se dire de droite ou de gauche, on est pour ou contre la mondialisation. La très belle enquête qui a été faite par le CEVIPOF à l'initiative de Luc Rouban sur les sympathisants des Gilets jaunes indiquait que 85% des sympathisants des Gilets jaunes trouvaient que la mondialisation était une mauvaise chose. Bon. Ce qui montre effectivement l'extraordinaire décalage qu'il y a entre la société française et le contexte mondial, j'ose même plus dire contexte international, malgré mon voisin, le contexte mondial, qui est que, effectivement, il va falloir très vite changer ses référents, se penser en fonction de quelque chose de nouveau. D'un certain point de vue, Emmanuel Macron, avec énormément, je pense, de maladresse, de naïveté, d'imprécision surtout. Et je pense qu'il est victime de ses propres imprécisions, ce fameux « en même temps », etc., a initié ce changement. Maintenant, il y a toute une recomposition qui se fait, mais je crois, contrairement à Daniel, qu'elle se fait en quatre coins.
Et donc, pour vous ramener à ma question de départ, le candidat Bellamy, il répond justement à ce nouveau cadre idéologique, ou en tout cas à cette réalité du monde dont vous parliez à l'instant.
Il occupe l'une des quatre cases. Car je pense qu'on va vers une structure du politique qui se fait mondialisation versus nationalisme et droite et gauche qui maintiennent quand même pour les raisons que Daniel indiquait tout à l'heure. Donc, alors, est-ce qu'il nous amène vers une mondialisation de droite ou un néo-nationalisme de droite? Je crois qu'il y a les deux tendances dans le parti républicain. C'est ça qui est intéressant. Et on verra vers quoi on va. Mais effectivement, ce rajeunissement des cadres peut favoriser l'ouverture des yeux.
Sur ce candidat François-Xavier Bellamy, vous vouliez réagir, Dominique Reynier, sur cette famille politique que vous connaissez bien. Quelqu'un dit qu'il aura du mal, François-Xavier Bellamy, à être à la fois Wauquiez et Finkielkraut.
Enfin, c'était pas sur ce point-là que je voulais réagir, mais je peux. Oui, enfin, il aura du mal. De toute façon, ce sera difficile parce que toutes les élections sont devenues très difficiles aujourd'hui, et singulièrement sur l'Europe. Et ce qu'il le faudra. Que les Républicains parviennent à faire, indépendamment de François-Xavier Bellamy, ce qu'ils devront faire, c'est offrir un discours clair sur ce qu'ils veulent faire avec l'Europe. Parce que quand on regarde, c'est pas les seuls, mais quand on regarde, on ne comprend pas très bien, parce qu'on entend à la fois, on est européen, mais pas cette Europe-là. Alors ça, c'est vraiment la combinaison qu'on retrouve un peu partout. Mais c'est quoi l'autre Europe? Et là, on ne sait plus très bien. Alors, il y a des sujets quand même à traiter, c'est un peu ce que dit Daniel Cohen, il y a des sujets à traiter, il faut savoir quand même si on est pour plus de souveraineté européenne ou pour un retour sur des souverainetés plus nationales, il faudra quand même trancher ce point. Non, ce que je voulais dire, par rapport à ce que disait Hubert Védrine tout à l'heure, il ne faut pas oublier un point. Moi, je ferai un pari, qu'on vérifiera avec nos auditeurs après les résultats, mais je ferai un pari qui est que, pour la première fois depuis 1979, au Parlement européen, les deux grands groupes vont perdre la majorité. Moi, je le crois. Ils vont perdre la majorité qui leur permettait de contrôler le Parlement, c'est-à-dire le PPE et puis les sociaux-démocrates. Leur alliance, jusqu'ici, faisait dans une bonne cogestion pro-européenne, fonctionnait quand même la seule assemblée vraiment démocratique du système européen. Je crois que c'est fini. Je crois qu'ils vont perdre cette majorité en raison de la baisse des partis de gouvernement de droite ou de l'effondrement des partis de gouvernement de gauche. Et donc on va avoir une question très difficile qui va être celle de la construction des majorités parlementaires post-gestion bicéphale du Parlement européen. Et je ne vois pas comment, aujourd'hui, en l'état actuel des informations que nous avons, elles s'affineront au fur et à mesure qu'on se rapprochera du scrutin et plus encore le soir même, mais je ne vois pas comment les deux grands groupes, qui sont moins grands qu'avant et l'un est même plus petit, vont pouvoir former une majorité avec moins de 4 groupes. Je ne sais pas si c'est clair pour l'auditeur, mais il va falloir non pas 3, mais 4 et peut-être même 5 groupes pour prendre des décisions. On va avoir une assemblée qui peut-être d'ailleurs sera une assemblée vraiment parlementaire ou parlementariste.
Une fragmentation complètement inédite.
Et comme je vois un peu partout que l'on dit « ne vous inquiétez pas, les populistes ne seront pas majoritaires », probablement pas, mais c'est pas en ces termes que ça se pose nécessairement. C'est la possibilité de conserver à cette assemblée très pro-européenne depuis 1979 la capacité à jouer un rôle d'impulsion et non pas à devenir le reflet d'une Europe qui a du mal à vivre.
Hubert Védrine, vous voulez réagir à ce diagnostic, ou cette prédiction de Dominique
Non, j'ai rien à redire à ce diagnostic. Je veux simplement rappeler que j'avais entendu à l'ambassade d'Allemagne à Paris, Helmut Schmidt avant son décès, et Valérie Giscard d'Estaing, expliquer que quand ils avaient décidé ensemble l'élection du Parlement européen au suffrage universel, ils avaient vraiment cru tous les deux qu'ils allaient provoquer un choc dans les esprits, une mentalité européenne. Alors, ils ont banni un peuple européen parce que c'est too much, mais en tout cas une mentalité européenne. Et j'ai entendu dire « nous avons échoué ». Nous avons échoué. Et à la question de la salle qui était « comment on peut faire alors pour améliorer le contrôle démocratique de la zone euro ?» Ils ont dit « il faut rétablir en priorité le contrôle par les parlements nationaux, sans délaisser le Parlement européen, mais il faut trouver une combinaison. » Je voulais dire avant que je rappelle qu'il s'agit simplement d'élire 74 députés français dans un Parlement... Pardon, 79. Il n'y a pas un changement avec les... Enfin, peu importe.
On récupère les parlementaires.
Oui, c'est ça.
Ceux du Brexit.
En tout cas, 79 parlementaires français au Parlement européen. Bon, il y a peut-être une disproportion entre ce qui va se passer, même si le taux d'abstention est moins élevé qu'avant, et les commentaires qui sont faits. C'est pour ça que je disais que la signification interne à chaque pays sera peut-être plus forte que le résultat final, surtout si on a un Parlement européen, comme vous le décrivez, c'est-à-dire relativement ingouvernable, instable, ou avec des coalitions changeantes et des majorités d'idées.
Et voilà. on est d'ailleurs, Daniel Cohen, déjà dans une période politique française où en réalité on n'entend pas du tout pour l'instant parler d'Europe. Je parlais de François-Xavier Bellamy, dont on ne sait pas réellement encore ce qu'il pense de l'Europe, à part qu'on sait qu'il refuse le fédéralisme, dit-il, de Macron-Merkel. Il parle simplement d'alliance entre des partenaires qui décident de construire ensemble ce qui leur permettrait de se renforcer dans le contexte de la mondialisation. Et là, je le cite, à gauche, pareil, pour l'instant, on en est à voir si la gauche va savoir se rassembler. Il y a les initiatives prises par Raphaël Glucksmann. Mais en réalité, on ne parle pas encore de vision d'Europe ou de vision de la souveraineté ou de toutes ces grandes questions-là.
Voilà, exactement. Donc c'est bien. Moi, je pense que c'est ça le problème. Il faut bien comprendre les causes, on va dire, qui sont liées en profondeur à la transformation de l'espace politique. Et puis les causes peut-être un peu plus superficielles, mais très importantes aussi, qui sont les conditions dans lesquelles ce vote se fait. Moi, je reste convaincu depuis très longtemps que tant qu'on aura des scrutins nationaux pour l'élection européenne, ça produira ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui, c'est-à-dire un débat passionnant sur la reconfiguration de l'espace politique français. Ça sera sans doute la même chose en Allemagne, en Italie et ailleurs. Mais jamais on arrivera, alors pas à ce peuple européen qui serait too much, comme disait très bien Hubert, mais quelque chose qui ressemble quand même, le temps d'une élection européenne, à une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire de ce machin. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce Parlement. Quelle que soit la limitation de l'exercice dans lequel il est contraint, et sans doute que c'est pas grand-chose dans l'espace nucléaire des puissances qui gouvernent l'Europe, il est quand même utile à quelque chose. Au moins d'être un espace de d'élaboration de ce qu'on veut que la Commission fasse. Et même si ça n'a pas été extraordinaire, moi je trouve que l'expérience Juncker, qui pour la première fois a fait que le président de la Commission est la tête de liste du parti arrivé au premier tour, a changé beaucoup de choses. Quand Juncker va voir Trump, il n'a pas du tout le même poids qu'un bureaucrate qui est envoyé pour négocier avec son interlocuteur aux États-Unis. Et d'ailleurs, il a obtenu des choses incroyables. En moins de 3 jours, il a obtenu ce que ni Mme Merkel ni M. Macron n'avaient réussi à obtenir, parce qu'il parlait au nom d'une puissance commerciale, au moins, qui est l'Europe. Donc il faut...
C'est évident. Sur le commerce, c'est...
Sur le commerce, ouais. Ben voilà, le commerce et la régulation, mais c'est déjà pas mal.
C'est pas lié au Parlement, c'est lié à la compétence
à la Commission,
de la Commission.
Mais lui, il est venu lester, bien sûr. Mais il est venu lester de la légitimité d'un homme politique qui pouvait parler d'égal à égal avec quelqu'un, enfin d'égal à égal entre guillemets, enfin, qui pouvait parler un peu au même ton, au même niveau qu'un élu qu'il avait en face de lui. Donc, il faudrait quand même qu'un jour, on ait cette discussion qui fasse qu'il y ait des scrutins européens, des listes européennes, pardon, qui s'obligent, alors même si il y aura la liste Madame Le Pen et Monsieur Salvini, très bien, aucune importance, voilà, qui expliquent ce sur quoi ils veulent être élus. Et il y a beaucoup de sujets quand même. Il y a des sujets sur, pardon.
Macron
sur,
a essayé.
Il a essayé, mais le nerf de la guerre, en l'occurrence, qui est d'obtenir, je sais bien, lui, il a voulu que ça soit les voix britanniques qui fassent l'objet d'un, je sais, mais il faut quand même que collectivement, on soutienne ce genre de débat, s'obliger à ça. Tant que ça n'aura pas été fait, ça, c'est simple, c'est rien du tout. Alors, on discutera chacun de son petit truc.
Si c'est rien, pourquoi ça a été rejeté par les autres quand Macron l'a proposé?
Mais parce que chacun y voit l'occasion de faire la tambouille politique dont on est en train de parler aujourd'hui. Que ce soit impossible parce que chacun trouve un avantage à faire de ces élections européennes un exutoire à leurs difficultés nationales, c'est très bien. Mais au moins, nous, entre nous, en amont, on peut quand même s'entendre à dire que si cette volonté européenne... Nous, ce sont les gens qui sont autour de cette table, et ça me suffit.
C'est très peu quand même.
De ce matin.
Non, mais ça se
de dire que si.
C'est à la fois beaucoup et très peu.
De dire que si au tout début, on avait décidé que l'élection de ce Parlement au scrutin universel, au suffrage universel, voulu par Schmitt et Giscard, si au tout début, on avait mis sur la table ces deux éléments que sont des listes européenne et celui qui est arrivé en tête sera de droit le président de la commission, on n'aurait pas perdu 40 années à se demander ce qu'on veut faire de ce machin.
C'est que cette idée est très contestée quand même.
Alors, c'est donc l'occasion d'en parler. Je pense que c'est fondamental. Ça paraît du deuxième ordre et c'est fondamental.
Le pays qui avait le moins intérêt à changer, c'est l'Allemagne qui contrôle l'ensemble du système à travers le PPE.
Alors, l'Europe est victime non pas de l'absence... Alors, disons que l'Europe est victime non pas de l'absence d'un peuple européen, mais victime de ces magouilles-là.
Daniel Cohen, vous disiez à l'instant, peut-être dans un monde demain, on aura une candidature commune, Salvini, Marine Le Pen, parlant d'une seule voix sur ce qu'ils veulent comme Europe. C'est quand même un peu ce qu'on a entendu ces dernières semaines, Dominique Rénier. D'ailleurs, si j'en crois l'évolution d'un Jordan Bardella qui fut un temps dans ses écrits, c'est ce qu'a rappelé le Canard Enchaîné cette semaine, faisait l'éloge du Brexit. Il a complètement oublié et rayé ce qu'il disait avant sur ce sujet-là. Donc il y a aujourd'hui quand même une unité du discours porté par l'extrême droite en Europe.
Oui, mais en même temps, Émilie Aubry, le point le plus important dans ce que vous venez de dire me semble être l'arraisonnement des populistes de la zone euro à l'euro. C'est un phénomène impressionnant ce qui se passe en ce moment. Marine Le Pen vient d'abandonner officiellement le rejet de l'euro. En Italie, 5 étoiles voulaient un référendum, il n'en est plus question, tant le soutien des Italiens à l'euro est puissant. En Autriche, le FPE ne veut plus du tout remettre en question l'euro. L'AfD en Allemagne est en train de glisser dans les intentions de vote parce qu'elle est encore trop hostile à l'euro, ce qui est arrivé à Geert Wilders aux Pays-Bas. Il est frappant de voir comment l'Europe est en train, à travers l'euro en plus, d'aspirer vers une espèce de centre pro-européen malgré tout, y compris les populistes. Donc ça, c'est quelque chose...
Ça se discute, ça, comme interprétation.
En tout cas, moi,
c'est
je pense...
C'est une bouée de sauvetage, surtout.
Non, mais moi, je pense que ça, on peut le discuter,
c'est
mais on peut le documenter, surtout. Il y a une vraie... Ah oui, mais l'adhésion à l'euro est supérieure à l'adhésion à l'Europe. Mais
absolument,
c'est un grand sujet, ça.
Est-ce que on ne parle plus de Frexit en France, sauf avait... François Asselineau,
oui, je crois. S'il y avait des comptes à demander...
Les clandestins sont contents.
L'esprit populiste en Europe représenté par différentes listes qui convergent beaucoup, s'il y avait des comptes à leur demander, ce serait sur ce point-là. Puisque vous n'êtes plus favorable à la sortie de l'euro, que devient votre programme? Que sont vos propositions? Que vous voulez-vous faire de l'Europe? Là, maintenant, il y a une espèce d'épreuve de vérité.
Parlons pour finir, Bertrand Badie, de votre ancienne élève, je crois, Manon Aubry.
Non,
que
mais
vous
c'est
avez...
pas...
Réagissez d'abord à ce qu'est Dominique Rénier, puis on parlera de la candidate de France Insoumise
Manon
juste
Aubry,
après.
Moi, je suis lié par le secret professionnel. Je l'ai eu comme étudiante, vous n'en saurez...
Ce ne sont pas ce genre de secrets que je vous souhaitais que vous me révéliez
donc,
aujourd'hui.
Effectivement.
Mais on parle de son programme, peut-être.
Ça c'est autre chose. Mais il y a quelque chose qui me gêne dans ce débat et qui est quand même assez révélateur d'un trait assez fort de nos cultures politiques. Alors, je ne sais pas si elles sont européennes ou occidentales. C'est de considérer que l'aménagement institutionnel fait d'en haut peut tout régler. C'est-à-dire, effectivement, on change le mode de scrutin et tout d'un coup, on va voir l'Europe s'éclairer. Non, je pense qu'il faut prendre les facteurs dans le sens inverse. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, c'est depuis alors difficile à dater, mais disons une bonne quarantaine d'années, il n'y a plus de projet européen. Il n'y a plus de projet européen. C'est-à-dire que dans les années 50-60, cela foisonnait avec des débats entre fédéralistes, les partisans de l'Europe des Nations et tout ce qui s'en suivait. À partir de 1970, ce débat a été asphyxié. Alors, comment voulez-vous espérer rallumer un débat sur l'Europe à partir du moment où les différents partis politiques n'ont rien à vendre.
Cela dit, il y a la question de la souveraineté qui est malgré tout posée par les extrêmes droites en Europe. Je parlais de France Insoumise. Le sujet de Manon Aubry, ça sera l'évasion fiscale. La fiscalité en général. Elle veut parler de la fiscalité européenne, des migrants et de l'écologie. On peut imaginer que ça fasse partie des trois grands sujets ou des quelques grands sujets de ces élections.
Oui, mais écoutez, moi ça fait 50 ans, 40 ans que j'observe la fétichisation de la souveraineté. On vous brandit ça comme affiche sans pouvoir définir le concept. Parce que il s'est greffé dans un univers et un contexte tellement différent que la vieille définition de la souveraineté, c'est-à-dire la détention de la puissance ultime face à plus grand, plus petit ou égal de soi, disait Jean Bodin en 1576, ceci est complètement des réalités. Du coup, la souveraineté de concept est devenue slogan. Et comme toujours, quand on a un slogan, ben il n'y a pas de doctrine derrière.
La souveraineté populaire, peut-être.
C'est un slogan, la souveraineté.
Ah, la souveraineté populaire, c'est autre chose. Le débat sur la souveraineté des États à l'intérieur de l'espace européen est un débat mort parce que la notion de souveraineté des États n'a pas été révisée.
Alors, il y a le concept de souveraineté européenne qui est cher à Hubert Védrine depuis longtemps.
C'est encore autre chose. C'est pas de ça que je parlais.
Dans quel sens, justement, c'est ambivalent.
Précisons-le.
Alors, je ne vais pas commenter le combat homérique de Bertrand Badi contre le concept de souveraineté. Je vais revenir à la question de maintenant. Est-ce que le mot de souveraineté européenne, ça veut dire moins de souveraineté, avec les limites du terme, pour les États-nations, ou est-ce que ça veut dire plus pour l'Europe? Ça a deux sens. Alors pour certains,
c'est deux plans différents.
Ça augmente une dépossession, un abandon qu'il faut combattre. Pour d'autres disent non, c'est là pour donner de la puissance en plus à l'Europe. Alors à ce moment-là, il faut préciser comment, sur quoi. Le seul point qu'on a traité depuis le début concrètement, c'est la capacité commerciale. Bon, est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels le niveau européen peut avoir plus de souveraineté, c'est-à-dire plus de poids, plus de pouvoir face à Trump, aux Chinois et compagnie? Il faut le déterminer, ça. Et moi, je pense qu'il faut aller dans cette deuxième direction, parce que si ça paraît le vieux combat pour combattre à coups de hache ce qui reste de souveraineté nationale auquel le peuple se raccroche parce qu'on lui a pris tout le reste, je pense que c'est une voie sans issue.
La capacité fiscale face aux grandes entreprises.
Si c'est une valeur ajoutée, la voie est ouverte. Il faut la préciser.
Daniel Cohen.
Je crois que quand même tout le monde est d'accord qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels seule l'Europe est en situation d'agir. Et je reprends la liste que vous donnez.
Et l'Europe
à notre place. Que vous donniez. Et qui me paraît excellente. L'écologie, la France ne peut pas avoir une politique écologique toute seule. Est-ce qu'il y a une taxe aux frontières pour empêcher les importations de produits écologiquement pollués? C'est un débat légitime. Quel est le degré de protection écologique qu'on veut? Il n'y a que l'Europe pour régler ça. Il n'y a aucun fantasme de souveraineté française qui permettra jamais de régler ce problème. La question des frontières, on peut décider de les refermer, mais si on est dans un espace européen, quelle politique migratoire, quelle politique pour les frontières?
Ça c'est quelque chose
vis-à-vis de quoi on a besoin d'une discussion européenne avec différents points de vue qui se font entendre. La question de la fiscalité, on comprend aujourd'hui qu'il y a des limites à ce que la fiscalité nationale peut faire. Est-ce qu'on veut un ISF européen, par exemple? Est-ce qu'on veut une taxe d'une nature ou d'une autre à l'échelle européenne sur les GAFA? Ça fait des choses qui ne sont pas jamais à la hauteur de savoir si on pourra un jour faire la guerre aux États-Unis, à la Chine, mais ce sont des choses très importantes pour la vie ordinaire des gens. Comment rappelons quand même que les gilets jaunes sont nés à peu près à l'intérieur section de toutes ces contraintes-là. Si on pouvait simplement avoir un débat européen sur ces questions, je trouve que ce serait formidable parce que l'Europe est en situation de régler ces petites choses-là mais qui se trouvent être au cœur des préoccupations des gens ordinaires qui manifestent aujourd'hui.
Rapidement pour conclure cette première partie, Hubert Védrine.
C'est très bien ce que dit Daniel, mais est-ce que le mot Europe, ça veut dire qu'on s'en remet à l'Europe ou est-ce que c'est nous ensemble?
La fiscalité écologique, par exemple, elle ne peut être que décidée au niveau européen. La fiscalité sur les GAFA, il vaut mieux que ce soit les Européens.
Et au niveau européen, c'est qui?
Les Européens, c'est-à-dire cet ensemble qu'on est en train de déterminer. Qui est? Mais cet ensemble qu'on est en train de déterminer d'une commission face à un Parlement qui se donnera les moyens d'agir parce qu'elle aura justement une majorité.
Jamais le Bundestag n'acceptera ça, jamais. Et la Cour de Karlsruhe, jamais.
Mais le fait qu'il ne l'accepte pas, et l'œuf et la poule, il ne l'accepte pas parce que la Constitution allemande considère que le Parlement européen n'est pas une instance démocratique parce qu'elle n'obéit pas à un certain nombre de principes donc, qui sont une voix, une personne.
On peut le faire ensemble, ce que vous dites. Mais pas en nous en remettant à une
superstructure. Mais pourquoi opposer cet ensemble et cette structure? On a des élections parlementaires européennes. On va nommer une commission qui va résulter de ce Parlement. Donnons-lui la force et la légitimité démocratique d'hériter d'un débat qui aura été justement discuté.
Pour conclure sur cette première partie, Dominique Reynier, le journal du dimanche croit savoir ce matin que pour complexifier encore un peu plus le contexte, l'Élysée prépare un référendum qui aurait lieu le jour des européennes, c'est-à-dire le 26 mai, sur plusieurs questions. Faut-il réduire le nombre de parlementaires, le nombre de mandats, quelles mesures de participation citoyenne, quelles réformes faire pour faire des économies. S'il y a ce parallélisme entre les enjeux de ce référendum et ces enjeux pour les européennes, ça change tout à ce scrutin-là, à la nature de ce scrutin?
C'est vraiment très intéressant parce que ce genre de référendum sur ce genre d'objet peut faire se déplacer un électorat qui plus souvent s'abstient aux européennes et dont une bonne partie, à mon avis, est plus protestataire que conventionnelle. C'est-à-dire que ce référendum, le jour des élections européennes, pourrait être une machine à faire davantage participer les électeurs en colère et donc à faire monter le niveau des listes anti-européennes.
Merci pour cette expertise. Allez, on va maintenant parler d'un autre jeune, puisqu'il a 35 ans. Il s'appelle Juan Guaido et il s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela. Guaido, un gamin qui joue à la politique, selon le président en place Nicolas Maduro. Guaido contre Maduro, chacun cherche ses soutiens.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
À Caracas, ces derniers temps, on défilait aussi beaucoup dans les rues et pas seulement le samedi. Dans ce pays paradoxal qui détenait les plus importantes réserves pétrolières, mais où le peuple manquait de tout, la réélection de Maduro avait donné lieu à de nombreuses accusations d'irrégularités de toutes sortes, opposants jetés en prison notamment, et 10 jours après son investiture, le jeune président du Parlement Juan Guaido s'était donc autoproclamé président par intérim, prenant de fait la tête de l'opposition au successeur d'Hugo Chavez. Depuis, le Venezuela avait donc 2 présidents. L'un, Guaido, tendait la main aux militaires, essentiels dans cette affaire, et aux fonctionnaires, avec lesquels il souhaitait enclencher un processus menant à des élections libres. L'autre, Maduro, parlait de putsch, de coup d'État dans lequel il voyait l'intervention de puissances étrangères, à commencer par celle des États-Unis de Donald Trump et des gouvernements de droite dans la région, citant notamment le Brésil. Une crise sociale et politique majeure qui contraignait la communauté internationale à se positionner. Il n'était pas inintéressant de voir ce que cela disait des grandes lignes de partage du monde contemporain, pour reprendre l'intitulé de votre cours autrefois à Sciences Po, Bertrand Badi. Russie, Chine, Cuba, Turquie, Syrie, Mexique derrière Maduro, tandis que Londres, Paris, Berlin, La Haye, Lisbonne et Madrid demandaient des élections normales, faute de quoi elles reconnaîtraient Guaido. Comme une ambiance de guerre froide un peu vintage qui aurait pu faire sourire s'il n'y avait pas ces milliers d'arrestations sommaires, de journalistes français par exemple, de morts et de violences redoublées dans un pays déjà exsangue. Deux visions du monde, deux systèmes de valeurs sur fond d'intérêts pétroliers colossaux, entre ceux qui parlaient de respecter les gouvernements en place, l'indépendance nationale, la révolution, l'héritage de Bolivar et de Chavez, et ceux qui parlaient de liberté et de dictature à renverser, le vrai faux retour d'un monde bipolaire.
Nous, on dit à Donald Trump, ne cherche pas des noises au Venezuela. Pas touche au Venezuela.
Nous avons commencé à construire une majorité, à gagner des soutiens à l'étranger, comme au Parlement, parce que nous avons dénoncé les violations des droits de l'homme et la corruption au Venezuela. Nous voulons mettre un terme à cette usurpation et installer un gouvernement de transition et des élections libres.
Voilà, Juan Guaido et Nicolas Maduro qu'on vient d'entendre. Bertrand Badi, vous aussi, vous avez senti comme un parfum des années guerre froide cette semaine ?
Non, pas tout à fait. C'est bien sûr apparemment vrai. Ceci dit, dans la coalition de ceux qui soutiennent Maduro, il n'y a pas seulement la projection de ce qu'était le camp Est ou le camp soviétique d'autrefois.
Il y a surtout un parfum de pétrole.
Il y a une coalition, oui, bon... Faut pas non plus être obsédé par ce genre de choses. Je voudrais juste peut-être dire 2 choses. La première, c'est que il y a dans cette coalition des États porteur de visions quand même assez différentes de l'international. La vision russe, chinoise, on la connaît. Il y a aussi la vision des émergents qui s'inquiètent toujours pour leur souveraineté, qui considèrent que toute internationalisation précipitée d'une crise politique intérieure pourrait se retourner contre eux. Et puis, il y a a fortiori les pays les moins avancés qui craignent encore plus parce que si cette nouvelle jurisprudence venait à se banaliser, eh bien, toutes les élections seraient peu à peu mises sous tutelle de l'international. Donc, ce n'est pas seulement un parfum de guerre froide, ce n'est même pas principalement un parfum de guerre froide, c'est effectivement, pour prolonger le débat tout à l'heure, une autre construction de la souveraineté. La vraie rupture, elle n'est peut-être pas dans l'espace, elle est dans le temps. C'est-à-dire que on assiste quand même à une modification assez profonde, sinon du droit international, en tous les cas de l'interprétation qu'on en donne, et je dirais de la grammaire de l'international. La reconnaissance d'État et de gouvernement, c'est quelque chose qui correspond à une pratique bien établie, c'est-à-dire qui interroge la réalité de l'exercice du pouvoir. Petit point d'histoire, lorsqu'en 1939, la plupart des démocraties occidentales ont reconnu le régime franquiste en Espagne, c'est pas parce qu'ils l'aimaient, c'était peut-être un peu par lâcheté, je n'en sais rien, c'était pas le problème. Essentiellement, c'est parce que en 1939, Franco avait la réalité, je dirais, physique du pouvoir sur l'Espagne. Quand en 1949, certains États tels la Grande-Bretagne ont reconnu la République populaire de Chine, c'est parce que il fallait constater que c'était elle qui avait la réalité du pouvoir. Donc, le principe, c'était jamais interprété sur le fond, mais constaté sur la forme. Là, non seulement on s'engage dans une autre voie, avec un petit précédent d'ailleurs qui est intéressant, qui est décembre 2010, janvier 2011, qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où c'est la communauté internationale qui a dit, ben, la vérité c'est ça, l'erreur c'est ça, celui qui a raison c'est lui, et celui qui a tort c'est l'autre. Bon, mais mis à part cette petite parenthèse, c'est quelque chose qui ne se faisait point, et qui maintenant crée une nouvelle interprétation qui est absolument effrayante. C'est-à-dire, si chacun des gouvernements, démocratiques ou pas, choisit celui qui, dans son esprit, incarne la légitimité, bah, c'est un changement complet dans les relations internationales. Allons-y, interrogeons-nous sur ce qui s'est passé en RDC la semaine dernière, interrogeons-nous sur le Tchad, interrogeons-nous sur le Congo, interrogeons-nous sur le Cameroun, interrogeons-nous sur près de 60-70 pays, et surtout aggravé par le fait que nous étions dans ce conflit de légitimité face à un candidat autoproclamé, M. Guaido, qui, une heure après son autoproclamation, a bénéficié du soutien des États-Unis. C'est quand même pour le moins étrange et on sent une synchronisation qui n'est pas seulement, du coup, une prise en charge de la question vénézuélienne par la communauté internationale, mais par une puissance, une superpuissance qui revient à la doctrine Monroe.
Vous imaginez, Hubert Védrine, les États-Unis de Trump sortir du nouvel isolationnisme trumpien pour intervenir directement au Venezuela? Comment on sort de cette situation
ils
où on a deux Vénézuéliens?
Hein. Ils sont unilatéralistes, brutaux, court-termistes, tout ce qu'on veut, mais ils ne sont pas isolationnistes. Ils veulent pas être engagés par des traités internationaux.
Ils annoncent des retraits de troupes dans certaines régions du monde.
Oui, c'est possible. De toute façon, je voudrais rappeler que, d'abord, il n'y a pas de monde bipolaire, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a même pas de monde multipolaire, parce qu'on ne sait pas tout à fait qui sont les pôles. Il n'y a pas encore de communauté internationale. Et nous sommes dans une période de reflux historique de l'influence des Occidentaux dans la conduite des affaires du monde, même si on débat énormément entre nous sur qui est bien et qui est mal, ce qu'il faut faire. En fait, on ne peut pas grand-chose, en réalité, sauf, en tout cas nous, sauf les États-Unis, qui sont à côté, qui ont tout à fait toléré le régime Chavez-Maduro pendant très longtemps, parce que qui vendait les Vénézuéliens et qui vendait-ils leur pétrole?
Premier partenaire commercial, bon. En effet.
Alors, maintenant, ils ont dit « ça suffit », parce qu'il y a tout un contexte latino-américain qui dit « ça suffit ». Mais derrière tout ce discours, il y a les capacités d'intervention sont faibles, les capacités d'analyse sont infinies, mais bon, l'intervention sont très faibles. Et je pense que nous, on est presque obligé de s'en remettre à une sorte d'entité latino-américaine, à moins que les choses montent au Conseil de sécurité où on a un mot à dire en tant que membre permanent, si c'est le cas. Mais c'est pas nous qui allons empêcher de Trump de faire ceci ou cela. Maintenant, est-ce qu'ils veulent intervenir vraiment, pousser jusqu'au bout le raisonnement,
oui,
le rappel par Bolton
des
troupes américaines à côté, ça m'étonnerait, mais enfin, ça dépend un peu de... Donc l'issue, c'est plutôt la répartition des forces au sein des armées vénézuéliennes, hein, qui ont toujours soutenu Chavez au début. Là, il y a un ralliement important, mais c'est pas grand-chose.
Celui d'un général.
Si ce ralliement s'étend, eh bien le Maduro devra partir. Si s'étend pas, si ça fait chou blanc, là, il y a un risque de guerre civile. Mais encore une fois, on n'y peut pas grand-chose. C'est triste à dire, parce que je sais qu'il y a une opinion française qui continue à penser que notre pensée est universaliste, on doit s'occuper de tout, etc., etc. Et souvent, c'est fait sincèrement, sincèrement, avec beaucoup d'émotion.
Là, c'était pas la question. La question, c'était de savoir si éventuellement il pouvait y avoir une intervention américaine. Est-ce qu'on assiste quand même, malgré tout, Daniel Cohen, à la fin d'un modèle dans cette région-là du monde, un modèle qui s'appelle le bolivarisme ou le chavisme ou le fidel castrisme?
Peut-être, mais en tout cas, effectivement, la question qui est posée, en suivant exactement ce que disaient Bertrand et Hubert à l'instant, c'est quelle est la manière dont on veut traiter cette question? Est-ce que c'est une redéfinition de ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce qu'on va commencer à regarder en interne si on considère que ça s'est bien passé ou mal? Ou est-ce qu'il ne faut pas tout simplement prendre un autre regard sur cette crise vénézuélienne, beaucoup plus simple en réalité, qui est de le considérer comme une tragédie humanitaire. Ça ressemble beaucoup plus aux grandes tragédies, des grandes sécheresses en Afrique et ailleurs, dans lesquelles il y avait un devoir d'intervention par rapport à des populations qui étaient tout simplement frappées par une formidable crise humanitaire, que de le considérer d'abord et principalement comme une crise politique. Je rappelle juste quelques chiffres sur ce qui se passe au Venezuela. Le PIB a été, la richesse par tête a été réduite de 50%. Le salaire minimum avec lequel vivent presque 80% de la population a été réduit de 80%. Selon certains calculs, ça permet d'acheter 2 œufs par jour. En 2017, les Vénézuéliens en moyenne ont perdu 5 kilos. Si ça continue plusieurs années consécutivement, ça veut dire que... Oui, mais vous savez, Hubert, ce sont des choses terribles quand vous avez des amis vénézuéliens qui vous racontent la difficulté de vivre aujourd'hui dans ce pays.
Pas, c'est dommage, ce n'est pas le peuple américain.
Oui, qui le subissent. Bon, mais toujours est-il que c'est quelque chose... J'ai compris que c'est ça que vous voulez dire. C'est pour ça que je ne vais pas vous suivre dans ce trait d'humour, parce que je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça signifie aujourd'hui, que la crise qui existe. Il y a 3 millions de Vénézuéliens, 10% de la population. Il faut imaginer 6 millions de Français cherchant, 7 millions de Français cherchant en Italie, en Espagne, en Allemagne à sortir de ce pays. C'est le taux d'homicide fait de Caracas l'une des villes les plus, si ce n'est la ville la plus dangereuse du monde. Donc c'est une tragédie humanitaire, avant toute autre considération. Ça n'est pas, est-ce qu'on tapote, est-ce qu'on a considéré que les élections sont bien ou mal passées, même si ce serait évidemment très important en soi. C'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est cette crise humanitaire qui fait que on ne peut plus rester indifférent à cette question, et certainement les voisins Colombie, Pérou, qui reçoivent ces Vénézuéliens en masse, ne peuvent plus rester indifférents à ça. Je pense que c'est le bon point de départ. Et ayant dit ça, il faut être capable de le traiter, si je puis dire, politiquement et intellectuellement, comme on s'est finalement résolu à traiter ces grandes crises de santé publique, humanitaire, qui ont pu exister auparavant. Et donc, l'erreur tragique pour l'opposition aujourd'hui, ce serait de s'en remettre à Trump pour revenir au pouvoir. Enfin, l'erreur, la tentation, bien entendu, mais qui serait terrible pour l'avenir de ce pays et de son avenir démocratique, ce serait que ce soit Trump qui remette au pouvoir. Donc, il faut évidemment le traiter autrement. Il faut que les Européens jouent leur rôle et il faut accoucher d'une solution qui mette d'abord fin à cette crise humanitaire. Je pense que c'est le plus important. Après, on peut revenir en arrière et répondre à votre question. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'un pays qui est potentiellement parmi les plus riches du monde, avec les plus grandes réserves, si on inclut l'Orinoque, les plus grandes réserves pétrolières du monde, comment ce pays est-il devenu plus malheureux qu'un pays sans aucune ressource, parti de rien? Et là, effectivement, il faut revoir l'enchaînement de circonstances qui fait que, à l'origine, Chavez, au fond habité par de très bonnes intentions, comparables à celles de Lula quand il a été élu quelques années plus tard, a voulu redistribuer la rente pétrolière au plus grand nombre, en ayant un programme très généreux et très sympathique de construction de logements pour sortir des barrios dans lesquels vivaient réveiller les gens, s'est laissé entraîner dans le même déni de réalité que celui qui, dans la plupart des pays latino-américains, ont été habités par cette forme de populisme typiquement spécifique à ce pays.
Et sur fond de corruption massive.
Et qui, bien entendu, a fabriqué tout ça aussi, mais surtout a refusé d'admettre que la conjoncture avait changé, que le prix du pétrole avait baissé, qu'on ne pouvait pas continuer comme il le faisait, et dans ce déni a fabriqué un extraordinaire déséquilibre comme on en a vu d'autres. En Bolivie, dans les années 80, il y avait déjà eu une hyperinflation créée par les mêmes conditions. Enfin, il y a quelque chose de spécifique à ce populisme de gauche latino-américain qui fait qu'il se construit sur un déni de la réalité, qui fait que quand la contrainte économique devient active, il n'est pas capable de revenir en arrière. Donc c'est une leçon plus générale. Mais oublions tout ça, parce que ça n'est pas non plus le procès du populisme, du bolivarisme qu'il faut faire aujourd'hui, mais véritablement, comme je disais au départ, je crois fondamentalement reprendre la mesure de la souffrance extrême dans laquelle la population aujourd'hui est cantonnée.
Cette souffrance par rapport à laquelle ne se positionnent pas réellement les deux axes que je citais tout à l'heure, Dominique Régnier, ce sont en revanche aussi des enjeux économiques majeurs qui justifient ces positionnements. On va peut-être rappeler aussi que la Russie est le pays qui fournit le plus d'armes au Venezuela, que la Chine a fait des deals avec le Venezuela justement pour leur apporter des milliards en échange de ce pétrole-là. Et ça joue aussi aujourd'hui dans la constitution de ces deux axes qu'on voit s'affronter dans cette affaire vénézuélienne.
Alors, ça joue, comme vous venez de le dire, Émilie Aubry, ça joue beaucoup, ça c'est un aspect évidemment clé. Ça n'est pas en ça que la crise est originale, puisque ce sont des matrices qui structurent bien des crises qui ont lieu aujourd'hui. Mais si vous me permettez, je ferai un lien avec la problématique précédente, parce qu'il y a un lien fort entre la crise vénézuélienne et les élections européennes, et d'ailleurs l'espace politique européen, qui passe par l'interrogation européenne de la crise de ce modèle vénézuélien, avec pour au moins deux partis politiques européens, la France Insoumise et Podemos en Espagne, une crise interne assez grave, voire très grave pour Podemos, au bord de la rupture. Il y a déjà une scission qui a lieu sur la question du modèle vénézuélien. Et là, le soutien inconditionnel du modèle par Jean-Luc Mélenchon ou par Pablo Iglesias en Espagne, le fait qu'en Espagne, Podemos a sans doute été, c'est tout à fait reconnu maintenant, financé par le régime vénézuélien, introduit un effet de fissuration. Probablement, moi je pense, au fur et à mesure que la crise politique, le drame humain dont Daniel Cohen a parlé parfaitement à l'instant, a des conséquences profondes sur les convictions des militants, sur leurs préoccupations. Il y a un point là qu'ils ne peuvent plus accepter, et ça crée vraiment des tensions extrêmes. Plus le fait que le régime vénézuélien, comme la Russie peut le faire, et là on trouve d'autres axes, hein, comme la Russie peut le faire, font partie de ces pays qui soutiennent des forces en Europe qui sont de type populiste ou anti-européenne. Et donc ça reconfigure aussi de ce point de vue-là, en partie, ce que pourraient être les élections européennes. Il est possible que les populistes de gauche en Europe aux prochaines élections européennes aient un score qui soit impacté par la crise vénézuélienne, à savoir ensuite si le transfert de leurs électeurs se fera vers l'abstention, vers un parti de gouvernement ou vers les partis populistes de droite, ce qui est un peu la tendance.
Vous n'aviez pas l'air d'accord avec cette grille de lecture, Hubert Védrine.
Globalement, si, bien sûr. Mais c'est sur la dernière phrase.
Oui, oui.
Je ne sais pas si les populistes, entre guillemets, européens seront assez idiots pour soutenir le régime Maduro. C'est ça votre pari, que ça va leur porter préjudice?
Non, je pense qu'ils vont soutenir, parce qu'ils sont liés, mais les électeurs eux-mêmes.
Oui. Me paraissent mais je voudrais fragiles. Juste une remarque courte sur ce qu'a dit Daniel, qui est très bien, je suis entièrement d'accord. Il démontre que le régime a ruiné ce pays et a créé ce drame humanitaire global. Donc il faut souhaiter que le régime change. Parce que c'est avec un régime différent que ce pays pourra redémarrer. Mais comment? Le processus interne, il est incertain. Et puis, de toute façon, on n'y peut rien. Le processus interne. Intervention extérieure, c'est vrai que si c'est les États-Unis qui le font, ça a des conséquences très très mauvaises, y compris au Venezuela. C'est les germes d'un nouvel affrontement futur. Donc la moins mauvaise solution, à mon avis, c'est une gestion régionale encouragé par les Européens. Encouragé, mais il ne faut pas croire que
le nouveau président du Mexique, le fameux monsieur AMLO, a proposé sa médiation. Andrés Manuel López Obrador a proposé sa médiation entre le gouvernement et le Parlement. Le mot de la fin, Bertrand Badi.
Bon, c'est pas le mot de la fin, mais simplement pour dire que le débat ne doit pas porter sur ce qui se passe à l'intérieur du Venezuela, en tous les cas à l'occasion de cet épisode. Pourquoi ? Parce que je crois que tout le monde partage, tout le monde honnête, partage ce diagnostic de la faillite d'un système, de l'épouvantable crise humanitaire qui en dérive, tout à fait raison. Là, en l'espèce, peut-être est-ce une déformation professionnelle, mais je crois que ce qui est pour l'instant important, c'est voir le phénomène de l'autre côté de la lorgnette. C'est-à-dire comment le système international est en train de changer. Il est en train de changer à partir de cette pratique nouvelle d'ingérence, entre guillemets, le terme est galvaudé, dans les affaires internes d'un pays. Et d'un certain point de vue, ce qui se passe aujourd'hui suit la grammaire de l'intervention. Comme ceux qui sont contre, ceux qui soutiennent Maduro, sont ceux qui étaient contre les interventions en Libye, dans le Sahel, etc. C'est-à-dire, il y a quand même cette question très importante qui est où sont les frontières du système international et jusqu'où peut-il pénétrer les États sans risquer de provoquer de nouveaux malheurs. Parce que ce que je vois à travers ces formes d'intervention, c'est qu'elles exacerbent les tensions à l'intérieur du Venezuela, plus qu'elles rapprochent de la solution. Je pense que le Mexique et l'Uruguay, effectivement, ont une position intéressante, intermédiaire, et qui correspond à la demande et à la appel tout à fait légitime de Daniel.
Merci Bertrand Badi. On garde quelques minutes pour vos conseils de lecture cette semaine. Daniel Cohen.
Écoutez, je viens de recevoir le livre d'un de mes amis qui s'appelle Jacques Mistral, s'appelle La science de la richesse. Donc par rapport à la crise dont on vient de parler, voilà, c'est l'occasion de lui envoyer un salut amical.
Hubert Védrine.
Oui, exceptionnellement, j'ai rien lu qui se raccorde à nos sujets.
Très bien, ben vous reviendrez la prochaine
j'ai
fois.
J'ai Guilippe cette semaine, mais pas par rapport à
Bertrand Badi.
Ben, moi, je vais peut-être travailler sur les terres de Daniel, c'est-à-dire je viens de paraître la traduction en français de Branko Milanovic sur les inégalités mondiales. Cet ouvrage est absolument superbe aux éditions de la Découverte. Il donne une lecture neuve de cette question qui pourtant est ancienne, avec notamment, et j'ai particulièrement apprécié, une lecture très réaliste, enfin, de la migration.
Et puisqu'il n'est jamais inutile de lire ou de relire Raymond Aron, je signale l'abécédaire de Raymond Aron aux éditions de l'Observatoire, avec des textes choisis par sa fille, la sociologue Dominique Schnapper. Hubert Védrine, c'est ça
oui,
vous
voulez recommander ? J'ai repensé que, mais c'était plus ancien, le livre de Cabestan sur la Chine.
Excellent.
Une interrogation très intéressante sur est-ce qu'il n'est pas impossible que la Chine devienne démocratique un jour ? Un jour, on ne sait pas quand.
Et bien voilà pour le conseil de lecture finalement d'Hubert Védrine. Merci beaucoup à tous les quatre, Hubert Védrine, Dominique Reynier, Daniel Cohen, Bertrand Badi. Merci à Luc-Jean Reynaud d'avoir réalisé cette émission, à Marine Beccarelli de l'avoir préparée avec moi, à la technique aujourd'hui. Élise, le dimanche prochain, n'oubliez pas, si vous êtes parisien, de venir assister à l'Esprit Public. Nous serons en direct et en public du Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Quel modèle politique pour l'Europe après les prochaines élections ? On en parlera avec trois drôles de dames, l'ex-eurodéputée Sylvie Goulard, la philosophe Monique Cantos-Perber, la journaliste Christine Ockrent pour donner la réplique à Daniel Cohn-Bendit.